Donc nous abordons ce soir un sujet assez, assez complexe et en même temps tout à fait passionnant, qui est le Mali, comme je le disais, la bande sahélo-saharienne et l'intervention française voilà, au Sahel. Donc Olivyane, vous êtes agrégée et docteur en histoire, vous êtes également islamologue, chercheur associé à l'université d'Aix-Marseille et professeur à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous êtes aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur l'islam, sur le Proche-Orient, sur le Moyen-Orient, et écrivez dans de nombreuses revues géopolitiques telles que Conflit. Voilà, et votre dernier ouvrage en date a été publié, il me semble, tout récemment, en mars ou avril 2021, et s'intitule « L'Europe face à l'islam, histoire croisée de deux civilisations, 7e, 20e siècle », si je ne me trompe pas.
Non, c'est ça.
Donc vous venez nous parler ce soir de la géopolitique française au Mali, des causes et des conséquences de l'intervention française militaire dans ce pays et plus largement au Sahel. Ancien point de passage entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne et pays multiethniques, le Mali dispose d'une situation géopolitique et géographique aussi stratégique qu'explosive. Ancienne colonie française, c'est à nous que ce pays fait appel pour lutter contre le terrorisme qui ravage le nord du pays. À la demande du gouvernement malien, le 11 janvier 2013, le président français François Hollande annonce une intervention militaire au Mali pour, je cite, « faire face à l'agression terroriste qui menace toute l'Afrique de l'Ouest ». Les opérations Serval puis Barkhane à partir de 2013 se succéderont pour tenter d'endiguer l'avancée djihadiste et défendre l'intégrité territoriale du Mali et avec comme objectif ultime, bien sûr, sécuriser le Sahel car la menace terroriste s'étend en effet du Burkina Faso jusqu'au Niger. Mais quels intérêts a la France à prendre part à ce conflit? En effet, d'un point de vue purement économique, par exemple, la zone sahélienne ne représente même pas 1% de notre commerce extérieur, bien que riche en uranium, en or, en cuivre ou en zinc, par exemple. Certes, notre présence permet de contenir les appétits économiques des pays tels que la Chine ou les puissances du Golfe. Certes, cela nous donne l'occasion de revenir sur le devant de la scène internationale en testant notamment de nouveaux matériels militaires. Mais quels sont nos réels intérêts derrière cette intervention? Forte de notre expérience dévastatrice en Libye, nous savons combien la stabilité des États africains est essentielle à notre propre sécurité, surtout en matière de migration. Mais est-ce là la réelle cause de notre intervention? D'autres intentions et intérêts non sécuritaires sont-ils en jeu? Autant de questions que nous nous posons ce soir, Olivyane, auxquelles la conférence tentera d'apporter des réponses. Je vous remercie encore de nous faire l'honneur de votre présence ce soir et vous cède bien respectueusement la parole.
Merci, merci beaucoup. Alors, je suis pas sûr que je vais répondre à toutes les questions que vous avez posées. Alors, pour ce faire, je vais...
Alors, on a un petit problème. Il me semble que l'intervenant n'a plus son micro allumé. Je crois que quelqu'un du public vient de couper le micro de l'intervenant. Si ça peut être réglé, s'il vous plaît.
Alors, voilà, je suis revenu. Là. Allô, Louis?
Oui, je vous entends, monsieur.
On peut y aller?
On peut y aller.
C'est parti. Là, c'est mieux, là. Bon, très bien. Donc, comme je le disais à Louis, je suis pas sûr de répondre à toutes ces questions, mais enfin, on va quand même essayer de dérouler les choses. J'espère que vous voyez tous la carte que je vous ai mise devant vous. Louis, c'est bon pour la carte?
Oui, on la voit bien.
Ok, très bien. Alors, je vais vous faire je vais vous retracer un historique. Et à travers cet historique, on va retrouver des tas de choses, notamment sur les causalités de ce qui se passe aujourd'hui au Mali et de façon un peu plus large en BSS. Si vous avez des questions sur Boko Haram, on pourra les traiter à part, même si bon, Boko Haram, c'est un phénomène un peu particulier, je n'en traiterai pas directement. Alors, revenons aux origines, entre guillemets. On est en 2005. Le président algérien Bouteflika parvient à désarmer les GIA, hein, l'ex-GIA, les groupes islamistes armés, à travers un accord de désarmement. Et suite à cet accord de désarmement, il y a quand même toute une série d'ex-GIA, notamment qui ont été intégrés au GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui refusent de rendre les armes. Mais leur présence dans le nord de l'Algérie, en fait, n'est pas possible. Ils ne peuvent pas se maintenir en raison des opérations militaires de l'armée algérienne, en raison aussi du fait qu'ils n'ont plus le soutien, même tacite, d'une partie de la population. Donc, on voit les membres du GIA ou des GSPC basculer dans le nord du Mali, dans cette région gigantesque qu'on appelle l'Azawad, et dès 2006, ils forment ce qu'on appelle ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec la bénédiction de Zawahiri, hein, donc le chef réel d'Al-Qaïda, et ils s'y installent. Ils parviennent assez vite à mettre en place entre 2006 et 2011 une zone d'action et d'attentat absolument colossale entre la Mauritanie, l'Algérie, le Mali, le Niger. Ils se financent essentiellement avec des trafics d'essence, de cigarettes, prise d'otages, et notamment les rançons de prise d'otages ne cessent d'augmenter. On est dans les premières prises d'otages à quasiment 2 millions d'euros par otage occidental, et on ira jusqu'à à peu près 20 millions d'euros d'après ce qu'on raconte. Donc, une très très forte présence d'ACMI dans toute la zone sahélo-saharienne, qui profite notamment de la faiblesse des armées locales et du soutien au moins stratégique d'Al-Qaïda. Le problème, c'est qu'à partir de 2011, la structure générale d'ACMI va connaître une multitude de fragilités internes liées notamment à l'épisode libyen. On voit en 2011 Abu Khaira, qui est un Sahraoui de Mauritanie, qui quitte la structure d'ACMI, où les chefs sont plutôt des Algériens, et il va fonder le Moudjahou, Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest, Moudjahou qui va s'installer dans la région de Ménaka. La caractéristique du Moudjahou, contrairement à ACMI, c'est que sa structure, elle est pluriethnique, elle est beaucoup plus subsaharienne qu'arabe et algérienne, alors que chez ACMI, la structure de commandement reste très fortement algérienne et touareg, ce qui n'est pas du tout le cas du Moudjahou, qui est beaucoup plus pluriethnique, avec notamment des touaregs déclassés comme les Daoussaak, ou encore avec des populations pastorales méprisées, voire régulièrement chassés par les populations sédentaires, notamment les Peuls. Donc on a une forte population de communautés déclassées, méprisées, qui ont peu accès à l'économie et aux postes de pouvoir. Le Moudjahou se crée. Toujours en 2011, Yadeg Rally, qui est un ancien chef Touareg, d'ailleurs qui, dans les années 90, se battait pour l'autonomie Touareg de la Zawad, hein, qui n'était pas du tout un chef islamiste ni djihadiste, et qui a fui le Mali, qui a basculé dans le combat djihadiste, notamment en Afghanistan. Et en 2011, il participait à la structure d'ACMI. Il quitte ACMI pour créer son propre groupe djihadiste, qu'on appelle Ansardin, qui est un groupe djihadiste à coloration, si je puis dire, Touareg, mais avec des familles de l'aristocratie de Touareg. Hein. Ce ne sont pas des groupes issus des populations pauvres, des clans Touareg, notamment les clans pauvres, qui peuvent participer, enfin qu'on peut classer parmi les Daoussaak ou parfois parmi les Imgad. Donc, on a différents groupes qui sont en train de se créer issus d'une fragilité interne à ACMI, et chacun de ces groupes a les mêmes vocations qu'ACMI. Hein. C'est le djihadisme, c'est la lutte pour le régionalisme autour de Ménaka, régionalisme de l'Azawad Touareg. Donc il y a des dimensions ethnico-communautaires, mais qui sont pas forcément fondamentales, puisque le Moudjahou est très métissé finalement, hein, ce qui est beaucoup moins le cas dans Sardine, hein, qui lui on sent bien qu'il y a une direction touareg qui est très forte. Et toujours en 2011, Mortar Belmortar, qui était un Algérien, qui était issu des GSPC, lui forme lui aussi son propre groupe, les Signataires du Sang. Ça n'est pas un Algérien, hein, donc, enfin ça n'est pas un Touareg, donc c'est pas un Malien, c'est un Algérien. Et il va avoir l'intelligence tactique de d'épouser des femmes de l'aristocratie Touareg, de faire épouser à ses commandants des locales, des femmes des régions locales, enfin des régions du Nord, qui va lui permettre d'avoir, de profiter des liens des liens traditionnels dans le désert, qui va lui permettre de participer à la solidarité des clans du Nord Mali, et donc de n'être pas nécessairement et uniquement considéré comme un chef djihadiste, mais aussi comme un guerrier de la Zawad, un guerrier du désert, un homme avec qui on peut faire du business, un homme qui propulse, qui promeut une certaine application de la charia, et donc qui va progressivement, au fur et à mesure des années, être considéré comme un résistant autant que comme un chef djihadiste. Donc l'aspect négatif pour Acmi, c'est son implosion, l'aspect positif, c'est que tous ces groupes, en fait, vont jouer sur des cordes locales, sur leur intelligence à pénétrer les tissus sociaux locaux, et ils vont continuer à avoir des liens quand bien même ils se sont séparés plus ou moins de la structure initiale. Il est clair que l'année 2011 a été fondamentale, puisque c'est l'explosion de la Libye, et on voit une partie de l'arsenal de Kadhafi se disperser dans au Mali, au profit des groupes que je viens de vous indiquer, et on voit revenir notamment ce qu'on appelle les Ichoumars. Les Ichoumars, ce sont des Touaregs qui avaient fui le Mali dans les années 90 et qui avaient trouvé refuge chez Kadhafi parce que les révoltes Touareg avaient été brisées par l'armée malienne. Et donc, une partie de ces révoltés, jeunes, avaient quitté le pays pour rejoindre la Libye où Kadhafi leur avait offert des postes, des places dans sa légion islamique. À la fin de Kadhafi, ces gens rentrent. Alors, combien sont-ils quand ils rentrent? On parle entre 1500 et 3000 hommes qui rentrent. Ils rentrent au pays, ils sont aguerris, ils ont été réislamisés, hein, ils étaient déjà musulmans, mais les combats Touareg des années 90 ne sont pas des combats de type djihadiste, ce n'est pas des combats pour la charia, c'est des combats autonomistes, régionalistes, et ces gens-là reviennent, mais avec une coloration islamiste beaucoup plus forte que, qu'autrefois. Et donc, ils vont renforcer les groupes locaux, et ils vont pouvoir, en 2012, grâce à ce renforcement de leur système opératif, tous ces groupes vont pouvoir prendre le contrôle de l'Azawad, qui va devenir ce qu'on a appelé l'Azawad islamique. Mais, et ça c'est très important, l'Azawad islamique n'a pas été organisé, structuré, capturé uniquement par des groupes djihadistes. Se sont joints à eux le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui est un vieux mouvement, alors qui a porté plusieurs noms, mais qui est le vieux mouvement autonomiste, voire indépendantiste Touareg, dirigé par certains aménocales, hein, certains chefs de l'aristocratie Touareg, auxquels d'ailleurs appartenait Yadeg Rally autrefois. Et le MNLA, qui n'est absolument pas djihadiste, fait alliance avec des groupes djihadistes, hein, d'orientation, de communautarisme très, très varié, pour prendre le contrôle de l'Azawad. C'est un peu sa faute originelle. Et lorsque l'opération Serval, puis l'opération Barkhane, est déclenchée en 2013 par la France, Serval en 2013 et Barkhane en 2014, eh bien, tous ces groupes sont vaincus. Ces groupes sont vaincus, ils doivent se replier, et la plupart du temps, ils se replient vers la Libye. Le problème, c'est que dans tous ces groupes, donc Ansardine, Acmi, les Signataires du Sang, le Moudjao, on a le MNLA qui fait tâche, parce que le MNLA n'était pas djihadiste. Et donc le MNLA a été obligé, au moment de l'arrivée des Français, en fait même quelques mois avant, de se désolidariser des groupes djihadistes, pour en fait rester un groupe avec lequel on puisse négocier. Et donc c'est ça qui est très ambigu dans la situation en 2012, c'est qu'on a une alliance totalement hétéroclite de groupes avec des objectifs tactiques et stratégiques très différents, et alliance qui finit par imploser quelques semaines avant l'arrivée des Français. Les Français vont donc bénéficier de cette implosion, les Français vont profiter notamment des renseignements donnés par le MNLA, alors même que le MNLA avait participé à la fragmentation malienne. Donc, on sent qu'en 2013, lorsque Serval puis Barkhane se met en place, la France est sur des orientations vis-à-vis de la situation malienne qui n'est pas nécessairement partagée par le gouvernement central de Bamako. Bamako considère le MNLA comme un groupe terroriste exactement comme les autres, bien qu'ils ne soient pas djihadistes, parce qu'ils ont participé à la fragmentation du pays. Alors que la France, comme le MNLA n'est pas djihadiste, considère que c'est un parti, enfin un mouvement, avec lequel on peut éventuellement discuter. Donc vous voyez que, avant même l'arrivée de Barkhane, tout le monde n'est pas d'accord, finalement. Alors, au moment même où l'opération Serval puis Barkhane a battu tous ces groupes et qu'ils se refluent vers la Libye, il y a un seul de ces groupes qui parvient à rester sur place et à montrer une pugnacité très étonnante. C'est les signataires du sang de Mokhtar Belmokhtar, qui parvient même en 2013 à faire une alliance avec le Moudjahou pour former ce qu'on appelle le groupe d'El-Mourabitoun. Mourabitoun qui a une capacité d'action en 2013 qui est extrêmement impressionnante. Ils sont capables d'aller de Bamako à In Amenas en Algérie sur quasiment 3000 km de distance. Donc au moment où nous en France on fêtait la victoire de Serval puis la mise en place de Barkhane, en fait les observateurs du terrain se rendaient compte que rien n'était réglé et que certes une partie des groupes avait fui mais qu'ils pouvaient donc revenir à tout moment. Et que au moment de la mise en place de Barkhane, vous avez El Mourabitoun, qui est une nouvelle succursale, une nouvelle enseigne, qui est capable d'aller très loin, très vite, dans tous les domaines. Alors, les déceptions ne vont cesser de s'accroître. Entre 2014 et 2016, les groupes se reforment. On a d'abord El Mourabitoun, hein, qui est extrêmement présent, vous le voyez sur la carte. On a Ansardine qui revient, on a Acmi qui revient, on a même certains mouvements qui apparaissent, le mouvement Sahraoui de la jeunesse islamique dans le nord de la Mauritanie, évidemment je ne parle même pas de la Libye, on a un nouveau groupe dont on parlera tout à l'heure qu'on appelle le FLM, Front de Libération du Massina, qui apparaît en 2015, et puis on voit arriver des groupes qui eux se rallient à Daesh. Donc à partir de 2015-2016, l'influence de Daesh commence à marquer la situation locale. Boko Haram se rallie à Daesh et on voit apparaître un groupe qu'on appelle l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, au sud de Ménaka, qui rallie Daesh et qui en réalité a aspiré le Moudjahou. Hein, le Moudjahou finalement s'est scindé, une partie s'est ralliée à El Mourabitoun, et l'autre partie a été absorbée par ce nouveau groupe, l'État islamique au Grand Sahara. Et donc on voit en 2015-2016 des groupes de toute nature, pro-Daesh, pro-Al-Qaïda, qui ne se coordonnent pas, ou peu, et qui ont chacun une zone d'implantation particulière, enfin en fonction de leur réseau propre, en fonction des types de recrutement qu'ils mettent en place, en fonction des types de trafic qui les finance, etc., etc. Mais ça signifie donc qu'au moment même où l'opération Barkhane bat son plein, en réalité, la situation est déjà en train d'échapper au contrôle du G5 Sahel et même des opérations françaises, quand bien même ces opérations sont tout à fait efficaces dans les bilans, les bilans et les frappes. Je vais vous donner très concrètement une indication de ce que je vous raconte. Voici l'État en 2013. On a, pendant toute l'année 2013, à peine 16 attentats dans tout le Mali, et essentiellement dans le Nord Mali, autour de Kidal. Donc la question Touareg est majeure, et ce sont essentiellement les groupes liés à Acmi qui opèrent ces attentats. Entre 2014 et 2015, on passe à 67 attentats. Donc, de 16 attentats en un an, on passe à 67 attentats en 18 mois. Donc il y a au moins un doublement si on évalue les choses par rapport aux attentats par mois. Vous voyez sur la carte que les groupes armés, je dis bien groupes armés, sont capables d'intervenir quasiment sur tout le territoire dès 2014-2015. Évidemment, la question des Touaregs est fondamentale, puisque Kidal, Tessalit sont les grandes zones d'implantation du MNLA, Gao aussi d'ailleurs. Donc on voit que le MNLA, pourtant soi-disant laïque, en tout cas il n'est pas djihadiste, continue sa lutte autonomiste, quitte à frapper les soldats français, qui les ont pourtant aidés. Ils frappent l'armée malienne. L'armée malienne est dans l'incapacité de réoccuper le Nord Mali. On voit que les groupes djihadistes sont extrêmement présents entre Gao et Menaka, qui est la zone du Bundjao, qui est la zone de l'EIGS, et on les voit aussi présents dans la zone de Tombouctou, autour de Ségou, hein, dans la zone Peul, dans la forêt de Ouagadou, et on commence à les voir dans le sud, au sud de Bamako, notamment à la frontière avec le Burkina Faso, à tel point que la ville de Fakola, que vous voyez ici sur la carte, a été capturée par ces groupes pendant 24 heures. Et donc on voit dès 2014-2015 que les problématiques sont en train de se démultiplier. On a une question d'autonomie touareg, on a la question des groupes armés liés au djihadisme de Daesh, et on a des groupes armés liés au djihadisme d'Al-Qaïda, qui se fédèrent plus ou moins. La situation empire dans le deuxième semestre de l'année 2015. Vous voyez qu'on a 57 attentats, c'est-à-dire autant que pendant un an et demi. Et là encore, vous voyez, on voit trois zones différentes. Autour de Kidal, la question Touareg qui implique le MNLA et Ansardin notamment. Autour de Tombouctou, Gao Menaka, qui est le vieux djihadisme, enfin qui est le nouveau djihadisme propulsé par tous ces groupes, le IGS, le FLM, etc. Et autour de Ségou Mopti, hein, dans la partie centrale du Mali, on commence à entrer dans une autre problématique, ce qui n'était pas le cas avant. La problématique, c'est quoi? C'est la mise en place de milices communautaristes qui ont pour but de protéger les villages. L'État malien étant dans l'incapacité d'assurer la protection des campagnes, notamment avec une gendarmerie efficace, l'État malien étant obsédé par la reprise de l'Azawad et étant dans l'incapacité de reprendre l'Azawad, en fait, l'État malien a abandonné dans la région centrale, hein, Ségou, Diafarabé, Mopti, Nampala, a abandonné la surveillance, le contrôle du territoire à des milices locales qui sont pour la plupart des milices ethniques. Du coup, vous voyez dans les chiffres des tués que j'ai mis là sur le graphique, on voit que, bien sûr, on tue des soldats maliens, et là, c'est plutôt le MNLA et les groupes djihadistes qui tuent des soldats maliens, mais il y a aussi des civils et des miliciens qui sont tués, même en majorité. Ça veut dire qu'on est en train de basculer en 2015 sur un autre format de guerre qui est une guerre liée à la milicianisation d'une partie des populations du centre du Mali. Ce phénomène se conforte en 2016 et vous voyez que ce sont d'abord des civils et d'abord des miliciens qui sont tués avant que ce soit des soldats maliens et des soldats de la MINUSMA. Ça signifie donc que se confirme l'idée que les djihadistes ciblent en priorité les soldats maliens et la MINUSMA. Le MNLA cible, lui, en priorité les soldats maliens, ou la France quand ils peuvent. Et les milices interethniques, ou les milices ethniques, les milices communautaires, en fait, sont en train de faire basculer le centre du Mali dans des combats de type intercommunautaire, pour se protéger de l'autre que l'on voit comme un ennemi. Alors, à quoi est dû ce phénomène de communautarisation et de milicianisation générale dans la partie centrale, alors que globalement, le Mali ne connaissait pas de querelles interethniques? Alors, c'est le génie du djihadisme. Vous voyez sur cette carte, en bleu, la zone d'Acmi avant 2012, et en couleur crème, orange, vous voyez la zone touchée par le terrorisme entre 2014 et 2017. Ça veut dire que, si vous le voyez bien, la zone est descendue vers le sud. Le djihadisme a gagné à peu près 300 km vers le sud. Et ce sont ces 300 km qui changent tout. Parce que sur ces 300 km, les courants djihadistes ont rencontré une communauté qui est présente, qui est à cheval sur quasiment 5 pays, 6 pays, qui est la communauté Peul. La communauté Peul est une communauté de tradition pastorale, semi-pastorale, pastorale, nomade. Il y a des degrés de pastoralisme très différents chez les Peuls. Dans son chemin vers le sud, le djihadisme, en fait, a utilisé des problèmes de ruralité qui sont des très vieux problèmes au Mali, au Niger et au Cameroun, liés notamment au pastoralisme Peul. Les Peuls sont très souvent considérés comme des pasteurs qui gênent les sédentaires, on se méfie de leurs troupeaux, les Peuls, pour protéger leurs troupeaux, souvent sont armés, et bref, il y a quasiment tous les ans des morts autour de questions de troupeaux, notamment de troupeaux de Peuls. Les Peuls ont été aussi les grands animateurs au XIXe siècle de djihadisme, des grands djihad Peuls, et notamment les Dogons au centre du Mali se souviennent d'avoir été en partie mis en esclavage par les grands djihad Peuls au XIXe siècle. Et donc, les groupes djihadistes vont jouer sur cette carte de la ségrégation des Peuls. Et ils vont créer notamment le Front de Libération du Massina, fondé par Amadou Koumfa, qui lui-même est un Peul, et ils vont jouer sur cette carte de mise à l'écart des populations Peuls, entre guillemets, en leur disant bah, « c'est nous qui allons vous défendre ». Et les villages Peuls vont être défendus par un groupe djihadiste Peul. Et donc, vous voyez ici la carte ethnique du Mali, et j'insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu de problème ethnique majeur au Mali. Or là, depuis 5 ans, 4 ans, en fait, les groupes djihadistes ont réussi à créer un problème ethnique. Notamment, les grands attentats de l'hôtel Radisson de Bamako, mais c'est pareil avec l'attentat de Ouagadougou en 2015, ont été commis par des groupes de jeunes Peuls que ACMI, que le FLM ont armés, légèrement embrigadés, enfin, il suffisait pas de faire grand-chose, c'était des gamins de 15-16 ans. Hein. Et en fait, on les a envoyés au casse-pipe. Donc en fait, la plupart du temps, ils sont morts. Mais évidemment, aux yeux des médias maliens et du monde, enfin de la BSS, ceux qui ont été les responsables de cet attentat, ce sont des Peuls. Et donc, on est passé, au lieu de dire ce sont des djihadistes, ce sont des terroristes, on a dit ce sont des Peuls. Ce qui fait que les populations qui se sentaient, enfin qui habitaient près des Peuls, notamment les Dogons, les Bozos, certains Songhai, en fait, se sont sentis, certains villages se sont sentis menacés par les Peuls en général, en tant que tels. Et donc, on a vu à partir de 2019 se multiplier les massacres anti-Peuls, mais de manière absolument phénoménale et enfin, tragique. Hein, le cas le plus tragique a été à Ogossagou, où une milice de chasseurs, les chasseurs d'Ozo, de la milice d'Amnan Omasagou, a fait plus de 135 morts dans un village, sous prétexte que dans un village Peul, il y avait un Peul qui avait été démobilisé du FLM. Cette milice de chasseurs considérait que ce jeune, il y en avait plusieurs, il y en avait 4 ou 5, ces jeunes qui avaient été démobilisés, en fait, représentaient une menace. Ils sont arrivés dans le village et ils ont brûlé tout le monde. Donc ça a été absolument monstrueux. Mais on a vu l'armée faire la même chose. On a vu des milices ethniques, Bambara, Tsongrai, se ruer sur des villages Peuls, etc., etc. Et donc évidemment, tout cela a renforcé le FLM et a renforcé la capacité d'action des groupes djihadistes qui utilisaient la question Peul. Ça a été le cas notamment lors de l'attaque de l'hôtel Splendide à Ouagadougou, au Burkina Faso, où là encore, c'était des jeunes Peuls. Et vous voyez que ces groupes font exprès d'utiliser ce type de population, hein, c'est très efficace. Donc on a vu entre 2016 et 2017, vous voyez, un élargissement du spectre djihadiste. On avait, vous le voyez ici, on a trois piliers du djihadisme. On a la Libye, on a Boko Haram, on avait ACMI, Mais le pilier Hakmi Ansardine dans le nord du Mali s'est résorbé, en tout cas a été moins fort en 2016-2017, au profit d'un troisième pilier qui lui était beaucoup plus dans le sud-ouest du Mali, qui touchait le Sénégal, qui touchait la Guinée, le Burkina Faso, et qui donc permettait d'écarteler Barkhane, puisque en passant des trois piliers Libye, Azawad, Nigeria, et en passant de ces trois piliers au pilier Libye, Sénégal, Boko Haram, en fait, on ajoutait l'équivalent de trois fois la France de la zone potentiellement menacée par les groupes djihadistes. Ce qui, évidemment, était absolument ingérable pour l'armée française. Dès mars 2017, les groupes djihadistes proches d'Al-Qaïda et non pas proches de Daesh se sont fédérés dans le groupe de l'islam, le groupe de la pour la victoire de l'islam et des musulmans, qu'on appelle aussi parfois le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, GSIM, qui va fédérer tous les groupes dont je vous ai déjà parlé, Ansardine, Hakmi, Mourad Bitoun et le FLN. Tous se retrouvent dans un même groupe, dirigé par le personnage que vous avez au centre, qui est le fameux Yader Ali dont j'ai déjà parlé. Et la mise en place du FLM, enfin du GSIM, pardon, ou GVIM, va être fondamentale parce que va accélérer la collaboration, la coopération de tous ces groupes et va désormais faire que la zone à risque n'est plus du tout au Nord Mali, puisque dans les faits, le Nord Mali est laissé au contrôle du MNLA ou au contrôle d'Acmi ou d'Ansardine. Alors évidemment, la France continue à intervenir régulièrement, mais n'a plus les capacités létales cinétiques qu'elle avait autrefois, parce qu'en fait, un nouveau pôle de djihadisme s'est développé, beaucoup plus vers le sud, qu'on appelle souvent la région des trois frontières, où en fait, le cœur de l'action cinétique va se focaliser au dépens de la partie nord, qui dans les faits, et laissé au MNLA et au groupe djihadiste, hein, ça c'est clair. Donc vous voyez ici l'implantation des différents groupes djihadistes à l'époque, hein, entre 2017 et 2020, et vous avez ici l'ensemble des groupes que fédère le GSIM ou le GVIM, c'est-à-dire que le GVIM est en mesure d'intervenir bien évidemment sur tout le Nord Mali, sur le centre Mali et sur tout le sud-est, où il rencontre toutefois une opposition qui est le IGS. Le GVIM, notamment à travers le Front de Libération du Massina, est capable de mener des attaques de très grande envergure, notamment l'attaque du camp de Djoura, où là vous avez carrément une garnison malienne qui est attaquée avec plus de 23 morts, garnison malienne qui situe à peu près une centaine de kilomètres de la capitale, ce qui veut dire que les groupes sont capables d'aller très très loin de ce qui était autrefois leur base. Alors, le nouveau venu dans toutes ces histoires, en tout cas celui qui est de plus en plus présent, c'est le IGS. Le IGS qui, vous voyez, est aux frontières entre le Mali et le Niger, dans une région qu'on appelle le Tillabéri, qui a toujours été une région de contrebande, contrebande qui vient notamment du Bénin, du Togo, du Nigeria. Région du Tillabéri, où on avait déjà eu dans les années 90 des affrontements, notamment entre les Peuls issus des Tolibés et les Touaregs issus des Imgades, entre des colons agricoles et des pasteurs Peuls. Donc c'était une région déjà particulièrement anxiogène dans le rapport des populations aux pasteurs Peuls, et c'était une région qui était totalement abandonnée de l'État nigérien et de l'État malien. Donc il est clair que les raisons agricoles, pastorales, rurales, explique en grande majorité le fait que cette région soit devenue, entre guillemets, le hotspot du djihadisme à partir de 2017. Comme par hasard, c'était aussi dans cette région que s'était installé le Mujao dès 2011-2012. C'est une région aussi marquée par la forte présence de réfugiés maliens, donc peuvent éventuellement constituer un bassin de recrutement. Et du coup, la plupart des forces sécuritaires internationales renoncent au contrôle de la partie nord au profit d'un surinvestissement dans le Tillabéri, les Maliens, les Nigériens, Barkhane, les forces spéciales américaines, Le Gatia, qui est un groupe, une milice pro-Bamako, le MSA, pro-Bamako, le G5 Sahel, bref, tout le monde s'y met dans cette région-là, sans forcément des résultats très probants entre 2017 et 2020. Hein, même les Américains perdent 4 hommes des forces spéciales américaines à Tongo Tongo. Et à partir de 2018, les trois frontières ayant basculé dans l'action djihadiste, que ce soit du GSIM ou que ce soit de l'EIGS, on voit désormais le Burkina Faso être totalement pris en tenaille par le Nord, par le FLM et par le GSIM, et par l'Est, par l'EIGS. Donc, le pauvre Burkina Faso est entré lui-même dans l'axe djihadiste. Entre 2018 et 2019, voilà comment évoluent les zones d'action. Vous voyez que l'EIGS augmente considérablement ses zones d'implantation au moment où le GVIM lui-même est en train de les augmenter. Évidemment, ce qui doit arriver arrive, c'est que vous voyez bien que les deux groupes, l'un pro-Al-Qaïda, l'autre pro-Daesh, sont obligés de se rencontrer et de s'affronter. Il est clair que la France, la DGSE ont tout fait pour faciliter l'affrontement entre les deux structures, qui a permis d'ailleurs la fragilisation de l'EIGS. Si l'EIGS a été alors on ne peut pas dire qu'il a été battu dans les trois frontières. En tout cas, il a été largement atrophié. Et c'est en partie grâce, évidemment, aux opérations de force spéciale de Barkhane, mais c'est aussi grâce aux affrontements internes. Alors, qui fait le boulot contre ces gens-là? La MINUSMA, avec les quatre emprises que je vous ai indiquées, en réalité, la MINUSMA, désormais, est totalement inefficace. La MINUSMA, alors je vais le dire de manière un peu ironique, mais on se demande qui va protéger la MINUSMA. La MINUSMA est devenue une opération de l'ONU qui est extrêmement coûteuse en hommes. Il est difficile à la MINUSMA de quitter ses bases sans prendre des risques. Donc la pauvre MINUSMA, malheureusement, n'est plus tellement indiquée pour faire la lutte contre tous ces groupes. Il y a la force conjointe qui a été menée à la fois par la France et par le G5 Sahel, qui avait pour but de une surveillance des frontières. Il y a eu quelques belles opérations des forces conjointes, de la force conjointe, mais il semble que les résultats ne soient pas totalement au rendez-vous sur le long terme. Il y a, depuis 2020, la Task Force Takuba, qui est une coordination de forces spéciales internationales France, Italie, Estonie, il y a d'autres pays qui sont en train d'arriver, qui a pour but de briser l'EIGS. Alors, elle se met en place très lentement, elle sera très probablement très efficace, mais il est clair que le jour où elle va réellement se mettre en place, l'EIGS sera déjà en train de se reconfigurer. Je suggérerai quelques évolutions tout à l'heure. Alors, pour avoir maintenant une idée un peu globale sur ce qui se passe par rapport à tout ce que je vous ai dit, on est aujourd'hui au Mali dans un système de sécurité totalement incohérent. Alors totalement incohérent, la faute à qui? C'est entre guillemets la faute à pas de chance, il n'y a pas un coupable. Il y a une multitude de coupables, une multitude de responsabilités. Il y a le fait que, évidemment, les groupes armés, qu'ils soient terroristes, djihadistes, miliciens ou autres, en fait, se reconfigurent beaucoup plus vite que les opérations internationales. Et il y a le fait qui contribue à cette incohérence. Il y a le fait majeur que vous ne faites pas la guerre uniquement par l'armée. Ou en tout cas, vous ne gagnez pas la paix uniquement par des opérations militaires. Or, pour le moment, la France, le G5 Sahel font des opérations militaires qu'on peut vraiment qualifier d'efficaces, puisque les bilans de prisonniers, les bilans de djihadistes morts, les bilans de prise de guerre, sont quand même très élogieux. Mais n'importe qui sait très bien que on ne gagne pas une guerre uniquement en faisant la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut des projets politiques. Et on sent bien que, pour le moment, personne n'a de projet politique très clair. Alors, quand je dis un système de sécurité incohérent, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, dans la partie nord, j'exagère peut-être un peu, mais je vais quand même le dire parce que ça semble quand même être assez vrai. L'Azawad, globalement, a été abandonné au groupe Touareg, quel qu'il soit, et à tel point que on avait essayé de créer un bataillon reconstitué qu'on installait à Kidal. L'armée malienne était en train de revenir à Kidal. Or, ce bataillon reconstitué, multicommunautaire, qui représentait vraiment la grande diversité malienne, en fait, a dû quitter Kidal au bout de 15 jours en raison de la dangerosité de sa présence. Donc aujourd'hui, qui contrôle le Nord Mali? Différents groupes Touareg, djihadistes, pas djihadistes, groupes armés, en partie le MNLA, en partie le GVIM. Donc, pour le moment, le Nord Mali échappe à tout contrôle, qu'il s'agisse évidemment du contrôle de Bamako, du gouvernement, mais aussi du contrôle du G5 Sahel et de la France. Deuxième élément, deuxième zone, le centre, aujourd'hui, est abandonné quasiment à des milices à caractère ethnique ou communautaire et à des chasseurs, notamment à la milice d'Annan Omassagou, mais pas seulement, à des chasseurs Tozo, mais pas seulement non plus. Globalement, le centre est en système d'autosurveillance villageois, et malheureusement, ce qui peut conduire à des conflits intercommunautaires, voire à des conflits interethniques. Donc, on est dans une problématique très différente, hein. Autre problème, autre système, vous avez un embouteillage sécuritaire dans le Liptako-Gourma, la région des trois frontières, où tout le monde, finalement, est d'accord pour lutter contre le IGS. Aujourd'hui, dans la question de la BSS, finalement, quels que soient les partenaires, tout le monde est d'accord pour taper sur le IGS. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas autant le cas pour les autres groupes. Il y a des ambiguïtés. Et enfin, dernière zone, la zone globalement autour de Bamako, qui est tenue par les forces armées maliennes, mais pas très bien tenue. Puisque en octobre 2020, pendant plus d'un mois, dans le village de Farabougou, qui est à 80 km au nord de Bamako, le FLM, avec en partie l'appui du GVIM ou GSIM, a tenu une grosse bourgade de plusieurs milliers d'habitants pendant quasiment un mois. Donc, c'est une véritable humiliation pour les forces armées maliennes. Donc, vous voyez que on a quatre systèmes sécuritaires, on a quatre problématiques sécuritaires à l'heure actuelle qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Or, la France, pour le moment, intervient essentiellement dans la question sécuritaire qu'est le IGS. Elle n'a pas à intervenir dans la région de Bamako, elle n'a pas à intervenir dans le centre du Mali, elle intervient un peu dans l'Azawad, mais uniquement dans du contrôle de zone, et pas du tout dans une action, ou beaucoup moins en tout cas qu'avant, dans une action cinétique contre le GVIM ou contre le MNLA. Alors, évidemment, j'en ai bientôt fini, le choc c'est en août 2020. En août dernier, lorsque l'armée malienne, ou une partie de l'armée malienne, fait un coup d'État au Mali, tout cela n'arrange absolument pas la question sécuritaire. Puisque les colonels qui prennent le pouvoir, on a pu croire au début qu'ils seraient une espèce de dynamique, qui représenterait une dynamique de reprise du contrôle du territoire, notamment dans la partie nord. Or, ça a été tout le contraire. On a vu au contraire des colonels maliens se battre pour le pouvoir, se partager les bénéfices du pouvoir et finalement abandonner la question de la reprise du territoire, la reprise de l'unité du territoire malien, à tel point que c'est au moment même où ces colonels prennent le pouvoir qu'ils ont été incapables d'assurer la reconquête de Farabougou, au nord de Bamako. Et c'est au même moment que se sont démultipliés les massacres interethniques dans la partie centrale, etc., etc. Donc, c'est quand même une mauvaise nouvelle. J'ajoute que les colonels ont négocié avec le GSIM pour obtenir la libération, notamment de l'otage française, Sophie Petronin, et de 200 djihadistes. Alors, les 200 djihadistes qui ont été libérés à l'initiative de ce gouvernement des colonels, si on peut l'appeler, étaient des petites mains. Mais c'est une victoire de Yad Egrali. Et vous voyez ici sur la photo, Yad Egrali a montré ses djihadistes libérés. Il les a accueillis dans ses zones de contrôle. Et c'est une humiliation totale pour l'État malien, en tout cas pour les putschistes, puisqu'ils ont été obligés de céder à au GSIM, qui a présenté cette libération de 200 djihadistes comme une victoire. Alors, globalement, où en sommes-nous? Bah, voilà où on en est. Voilà où on en est. Là, j'espère que vous voyez la carte en entier. En pointillé vert, les espaces qui étaient touchés par ACMI entre 2006 et 2011, et aujourd'hui les espaces touchés par le terrorisme, quel qu'il soit. Donc vous voyez que les choses ont beaucoup changé. Vous voyez en hachure verticale la zone d'action du GSIM, vous voyez la zone d'action de l'IGS, et quand on croise ces deux zones d'action, on se rend compte de quoi? C'est que oui, ces deux groupes s'affrontent, s'affaiblissent mutuellement, mais la surcharge, l'embouteillage sécuritaire dans le Liptako-Gourma ou dans les trois frontières est en train d'aboutir à un phénomène qui n'était pas tout à fait prévu. C'est le déplacement progressif de l'IGS, à la fois vers le sud, le long de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, vous le voyez sur la carte, et ils sont aussi en train de remonter le long de la frontière entre le Mali et le Niger, vers la frontière algérienne. Donc, fragilisation de l'IGS parce qu'il a été frappé en permanence depuis 3 ans par la France, et cette fragilisation aboutit à sa dilution à la fois vers le nord et vers le sud, et on voit désormais le Ghana, le Togo, le Bénin menacé, en tout cas la partie nord, on voit menacé par l'IGS, alors le Burkina Faso est dans l'œil du cyclone, hein, complètement, déjà depuis quasiment 2 ans. On voit le IGS commencer, alors on n'en est qu'au début, hein, un éventuel rapprochement avec ISWAP, hein, ISWAP c'est Boko Haram, ou en tout cas l'ancien Boko Haram, donc les deux groupes pourraient se rejoindre dans le nord du Nigeria, ce qui tomberait bien puisque les deux groupes se sont ralliés à Daesh. On voit le IGS monter vers la frontière algérienne, où là, à un moment ou un autre, il va rencontrer Ansardine. Vont-ils se combattre? C'est possible. Et du côté du GSIM, il ne cesse d'avancer vers le Sénégal, vers la Guinée. Il se répercute vers le nord de la Côte d'Ivoire et vers la Guinée. Toujours en longeant des frontières, parce que les frontières, en fait, sont totalement poreuses et ne sont pas assez surveillées, contrôlées par les gendarmeries locales ni par les armées locales. Donc, vous voyez que malgré 50 ans de coopération militaire avec les pays africains, malgré 10 ans d'opération militaire française dans la région, malgré l'embouteillage sécuritaire dans la zone des trois frontières, en fait, on voit tous ces groupes qui se reformatent en permanence, qui se reconstituent et qui sont capables d'aller très vite, de profiter de la moindre fragilité. Et il est évident que les deux coups d'État récents au Tchad, avec la mort d'Idriss Déby, et à Bamako, où les colonels ont fait un deuxième putsch il y a quelques jours, eh bien tout cela n'augure absolument rien de bon, puisque ce sont autant de fragilités internes dont les groupes, qu'ils soient djihadistes, terroristes ou groupes armés, vont évidemment profiter. Voilà. Donc, les choses ne sont pas tout à fait enthousiasmantes pour l'avenir.
Merci.
Voilà. Merci. Voilà. Oui, je vous rends la parole.
Merci beaucoup, Oliviane, pour cette conférence fouillée, passionnante, totalement intéressante, parce que c'est vraiment des sujets que, je pense, nous, étudiants, on maîtrise assez peu. voilà, cette partie du monde en général et ce conflit en particulier. On va pouvoir passer sur la séance de questions. Voilà, donc si le public a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, peut-être à vous présenter un petit peu avant et à poser votre question à Monsieur Anne.
Ah oui, alors attends, je vais arrêter de partager mon écran, comme ça
Oui.
on se verra mieux.
Et je crois qu'il y a déjà eu une question.
Alors oui, j'ai vu, oui, j'ai vu passer une question. Donc la France va se retirer. Enfin, doit-elle se retirer? Alors là, vous posez la question que tout le monde se pose, quoi. Bon, il est clair que en l'état actuel, aucune solution durable n'est sur la table. C'est évident. Vous voyez, la dernière fois au congrès enfin la conférence internationale de Niamey, il y a 3 mois avec le président Macron a rappelé quels sont les objectifs de la France, c'est-à-dire briser la résistance des djihadistes, frapper les têtes. Et au même moment, dans la même conférence, le gouvernement malien disait, il y a des gens avec lesquels nous pouvons négocier. Donc ça veut dire que sur le plan politique, la France et les colonels, entre guillemets, maliens, ne sont pas du tout sur les mêmes axes politiques. Les colonels maliens, eux, sont prêts à négocier avec Yad Agrali, et pas la France. Alors, là où tout le monde est d'accord, c'est on peut taper sur le IGS, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la question du GSIM. Le GSIM est prêt à négocier. Le Bamako aussi, mais pas la France. Donc, si nous partons aujourd'hui, il est évident que le GSIM obtient ou obtiendrait les rênes du contrôle territorial, au moins dans la partie nord, ce qui pourrait éventuellement créer une espèce d'émirat islamique, de république islamique dans la Zawad. Évidemment, après, le combat d'après, c'est d'attaquer la France. Il est clair que si le nord, enfin si le l'Azawad n'a même plus cette petite présence française, les groupes armés peuvent jouer sur les réfugiés, peuvent. Voilà, il y a un risque sécuritaire énorme pour la France. Mais le problème, c'est que il faut bien qu'on trouve des solutions politiques. Or là, pour le moment, en France, les solutions politiques qui nous sont proposées, nous, on les refuse. Et les Maliens, eux, ils veulent bien discuter avec Yad Agrali. Donc, point d'interrogation, personne ne sait. C'est pour ça que je pense que, en fait, il ne peut rien se décider de réel avant la prochaine élection présidentielle. On est obligé d'attendre la prochaine élection présidentielle française pour voir ce qui va se dégager.
Alors, Denis, je crois que tu as une question, vas-y, tu as la parole.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour
Bonjour.
cette conférence qui était super intéressante. Mais du coup, moi j'avais une petite question par rapport à l'expansion en fait de ces groupes.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que du coup l'expansion donc de ces groupes djihadistes vers le sud et le nord soit due à la présence donc de la coalition internationale? Ou alors, au contraire, c'est justement que la coalition avait prévu cette expansion et qu'elle a voulu y mettre un coup d'arrêt peut-être préventif et je sais pas.
Ouais. Alors, l'expansion vers le Burkina et vers la frontière algérienne, elle est, à mon sens, hein, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée d'abord au fait que le cœur de leur région de contrôle, hein, qui était le sud de Ménaka, le Liptako-Gourma, ou qu'on appelle aussi la région des trois frontières, en fait, cette région est frappée depuis 4-5 ans régulièrement par l'armée française. On a des opérations extrêmement mobiles de l'armée française qui circulent quasiment en permanence pour les atrophier, pour les fatiguer, pour les harceler. Donc, il est clair que le contrôle du terrain est quand même devenu compliqué pour tous ces groupes, d'où aussi le fait de basculer sur d'autres territoires. Toutefois, et c'est une autre raison, on ne bascule pas sur n'importe quel territoire. On bascule sur des territoires qui sont frontaliers, qui sont marginaux, sur des territoires qui ont été méprisés, sur des territoires où l'État s'est peu investi, où les gendarmeries locales n'ont quasiment jamais pénétré ou très peu, et où les armées locales ont manifesté, enfin, sont intervenues de manière extrêmement brutale. Donc, l'extension, à un moment, elle est favorisée par des contextes locaux, des fragilités rurales, des questions de pastoralisme, des questions de mémoire de l'esclavage, pas de l'esclavage blanc, mais de l'esclavage notamment par les groupes Peuls. Donc c'est à la fois des combats mémoriels et puis c'est des combats pour la survie, pour les trafics, pour l'argent, pour les troupeaux. Et par exemple, dès que des groupes djihadistes, notamment le IGS, veut prendre le contrôle d'une zone, en fait, ils attaquent d'abord les troupeaux. Et dès qu'ils ont le contrôle d'une zone, ils protègent les troupeaux. Donc, en fait, vous ne pouvez pas participer à la pacification, à la stabilisation de la zone, si à un moment ou à un autre, vous ne traitez pas des questions agraires, agricoles. Mais ça, comment voulez-vous traiter de ces questions-là tant qu'on n'a pas pacifié? En fait, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Le cycle ne peut pas s'arrêter puisque on n'a pas commencé à la sécurisation. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que le déplacement de ces groupes soit lié à une anticipation, notamment de l'armée française. On était trop occupés en 2016-2017 dans la partie nord, dans la Zawad, pour déjà anticiper que le Burkina Faso allait tomber ou allait être très fragilisé. Alors, il y avait toutefois, dans certaines rencontres auxquelles moi j'ai assisté, on disait aux Burkinabés, bon, faudrait quand même que vous fassiez attention parce que ça risque de vous arriver, quoi. Et les Burkinabés étaient très très peu investis. Enfin, eux-mêmes n'ont pas tellement anticipé. Donc il y a un défaut d'anticipation qui est clair, hein, ça c'est sûr.
D'accord, merci beaucoup.
Alors il me semble qu'il y a une autre question dans la conversation. Tous les groupes terroristes sont-ils islamistes?
Ah non, 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 non. Non, non, puis alors, vous avez des groupes. Alors, c'est pour ça qu'on parle plutôt de groupes armés. Parce que bon, comme vous le savez, hein, le terrorisme, on fait du terrorisme quand on n'a pas les moyens de faire de la guerre. Donc le terrorisme n'est qu'une modalité d'action. L'idéal, c'est à un moment de faire la guerre ou de faire de la guérilla, pas simplement le terrorisme. Le terrorisme, c'est le niveau 1 de l'action politique. Après, le niveau 2, c'est la guérilla. Et le niveau 3, c'est la guerre. Donc vous voyez, ces groupes-là, ils passent de l'une à l'autre. Quand ils en ont les moyens, ou voilà. Donc, vous avez des groupes djihadistes, ouvertement djihadistes, Ansardine, Acmi, El Mourabitoun, donc le GSIM, le IGS qui est ouvertement djihadiste, et vous avez des groupes qui sont armés, mais plutôt islamistes. Je pense notamment au MIA, Mouvement Islamique de la Zawad, qui d'ailleurs, lui, ça, c'était désavoué de certains groupes djihadistes, alors même qu'ils avaient des cousins dans les groupes djihadistes, ce qui leur permettait de continuer à avoir du renseignement d'ailleurs. Et vous avez des groupes armés Touareg, qui ne sont absolument pas islamistes, encore moins djihadistes, le MNLA, mais vous en avez d'autres. Vous avez des groupes armés qui sont autonomistes, régionalistes, et puis vous avez des groupes armés qui aujourd'hui sont des milices à caractère communautaire, communautariste, et dont les objectifs ne sont pas du tout religieux, quoi. Mais qui sont aussi dangereux. Par exemple, la milice d'Annan Ambassagou, cette milice de chasseurs d'Ozon, elle a du sang sur les mains, elle a des centaines de morts sur les mains. Elle est aussi dangereuse qu'un groupe djihadiste. Malheureusement, elle a été. L'État malien l'a laissé prendre du pouvoir, l'a laissé prendre le contrôle de certains villages, de certaines régions, soi-disant pour sécuriser ces villages. Mais aujourd'hui, elle les commande, en tout cas, elle peut les ponctionner, elle peut créer une fiscalité. Donc, cette milice de chasseurs, elle finit par être un État dans l'État, quoi. C'est ce qui empêche la reconstruction de l'État malien. Donc, vous voyez que la reconstruction de l'État malien n'est pas uniquement une question de djihadisme. Si j'étais excessif, je dirais même que c'est un problème secondaire. Enfin, c'est évidemment excessif de le dire comme ça. Le premier problème de base, c'est la reconstruction de l'État malien. Le deuxième problème, c'est la question de la justice sociale dans les communautés rurales. Et le troisième problème, effectivement, il y a un problème régionaliste, il y a un problème lié à l'interprétation de l'islam. Mais j'ai envie de dire, c'est un troisième ou quatrième problème. Je vais vous donner un exemple. J'avais pu consulter un rapport de l'armée nigériane sur les interrogatoires sur une centaine de prisonniers de l'EIGS. Non, de, pardon, excusez-moi, de Boko Haram. Alors, on est au Nigeria. Et c'était très intéressant ce rapport, parce que donc une centaine d'individus, ça commence à être important, hein. Enfin, ça commence à être révélateur. Et les jeunes, ils avaient entre 15 et 20 ans, les jeunes activistes de Boko Haram, quand on les travaillait un peu et qu'on leur demandait pourquoi ils étaient entrés dans la secte, en réalité, la première raison, c'était toujours une raison d'argent. Après vient l'idée de protéger la famille ou protéger le village. Après, l'idée d'avoir une arme, l'idée d'avoir une femme, puisque Boko Haram donne des femmes. Et la question de défendre l'honneur du prophète, ça venait en cinquième cause. La raison religieuse, elle est quand même très, 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 très secondaire. Alors que pour nous, Européens, elle est toujours première. En fait, on n'a pas tout à fait la même manière d'analyser le terrain que les gens sur place.
Et alors, il y a d'autres questions. Augustin qui continue sa question avec « Comment expliquer la faiblesse et le laxisme des États armés et justice des pays du G5 Sahel ?»
En fait, vous êtes devant 60 ans de fragilité étatique. On a longtemps cru que ces États, finalement, tenaient, mais depuis 10 ans, en fait, ils ne tiennent plus. Alors, il faut mettre de côté certains pays. La Mauritanie tient très bien, par exemple. Hein. Et c'est pas une question ethnique, parce que là, je voyais, il y a quelqu'un qui posait qui faisait une remarque sur l'ethnicité. J'insiste sur le fait que au Mali, oui, il y a des communautés très diverses, mais il n'y a jamais eu de problème, ou très peu. Enfin, au 19e, il y avait des problèmes ethniques, mais au 20e siècle, il n'y en a pas eu, quoi. Le Burkina Faso, par exemple, c'est un pays à grande majorité Mossi. Or, le Burkina Faso, une partie du Burkina est en train de s'effondrer. Le nord, l'est, c'est quand même très inquiétant ce qui s'y passe. Donc, vous voyez, il ne faut pas surcharger non plus la question ethnique. Elle existe, mais il y a toujours d'autres facteurs. La question rurale, la question foncière, voilà, il y a d'autres aspects. Voilà. Je sais plus. Oui, d'où vient la fragilité des États? Alors, il y a quand même aussi des causalités qui ne sont pas dues uniquement à l'indépendance, hein, puisque ces États, finalement, sont fragiles depuis l'indépendance. Il y a des causalités plus récentes, dans lesquelles nous, occidentaux, en tout cas nous, qui sommes les défenseurs, en tout cas les promoteurs, de la mondialisation libérale et démocratique, nous sommes aussi un peu responsables, c'est que depuis les années 90, nos institutions internationales, occidentales, ou l'ONU, ont exigé la mise en place d'économies libérales dans tous ces pays-là, ont exigé la mise en place d'authentiques démocraties. Donc en fait, on a eu deux impératifs, deux injonctions qui sont venues de l'extérieur, qui sont venues d'en haut, en disant, si vous voulez de l'aide au développement, il faut libéraliser vos États, il faut mettre en place de la libre concurrence, et il faut mettre en place des élections libres, et travailler pour l'égalité homme-femme. Bon, tout ça était très sympathique, l'égalité homme-femme et la démocratie étaient plus sympathiques que un système libéral de libre concurrence qui a fragilisé les économies. Mais au-delà de l'aspect sympathique ou peu sympathique, en fait, les injonctions qui sont venues de l'ONU, de l'Union européenne, etc., en fait, ont fragilisé les équilibres précédents. Et notamment, ont abouti à des fragilités dans les budgets de l'État. Et donc, quand on dit, oui, les États sont quand même pas assez présents, ce sont des États faillis, il faut aussi rappeler que la fragilisation accentuée de ces États est en partie due aux années 90 et aux années 2000, liées aux injonctions qu'on leur a données nous-mêmes, notamment les phénomènes de libre concurrence, de décentralisation, etc., etc. Voilà, donc ça permet de remettre aussi les responsabilités, elles sont partagées quand même.